Chapitre 21. Les querelles entre associés n'ont bien souvent aucune importance. L'intérêt commun fait oublier les blessures de la dignité et de l'amour-propre. La lettre de Mirandol reçue, Frédéric n'eut aucun embarras pour demander à Clara d'en parler à son père, et celle-ci ne pensa même pas à lui refuser son concours. Il était bon que cette lettre arrivât à la connaissance de M. de Mussidan d'une façon incidente, afin de ne pas provoquer des soupçons, et personne mieux qu'elle ne pouvait se charger de cette mission. Cela suffisait pour qu'elle l'acceptât. En somme, c'était pour elle, aussi bien que pour ses associés, qu'elle travaillait. Lorsqu'elle voulait s'entretenir avec son beau-père, elle avait l'habitude de l'aller prendre au moment où il devait sortir, et ils descendaient alors ensemble à Paris, M. de Mussidan fier d'avoir à son bras une femme qui se mettait bien et qui lui faisait honneur. Décidée à lui parler de la lettre de Mirandol, ce fut cette tactique qu'elle suivit, et quand, après avoir suivi la rue d'Ancourt, ils arrivèrent sur le boulevard, elle aborda son sujet. « Vous savez, dit-elle, si j'aime Sébastien, quelle estime j'ai pour lui et quelle tendresse. Vous savez aussi combien j'ai d'affection pour Frédéric. » « Vous êtes une excellente personne, ma chère belle. Cependant, malgré mon estime et ma tendresse pour mon mari, malgré mon affection pour mon beau-frère, je ne m'aveugle pas sur leur mérite. Ils sont l'un et l'autre de tristes hommes d'affaires. À qui le dites-vous, hélas ? Toujours occupés de chimères. N'ayant aucune fixité dans les idées, s'envolant avec leurs espérances et se rassurant avec leurs impressions. Où en arrive-t-on quand on se rapporte à son impression ? Mon impression est bonne. Eh bien, qu'est-ce que cela prouve, votre impression ? C'est ainsi qu'on arrive à la misère, et je crains bien que ce ne soit notre sort si, avec votre coup d'œil supérieur et votre esprit de décision, vous ne trouvez pas moyen d'agir. M. de Mussidan fut effrayé. Il crut que sa belle-fille voulait lui faire un emprunt. « Un coup d'œil supérieur, dit-il, ne donne pas des ressources, et vous savez que de ce côté, je suis malheureusement dans une fâcheuse situation. »« Il ne s'agit pas de débourser de l'argent, mais seulement d'avoir du coup d'œil, de la décision et de l'habileté. »« Alors parlez vite, chère belle, je suis tout à vous. » »« Eh bien, Frédéric a reçu de l'un de ses amis de corde une lettre. »« De Mirandol, sans doute. » Justement, c'est le nom. Il a donc reçu de ce monsieur une lettre dans laquelle on lui dit que Mademoiselle de Puylaurens vient de faire son testament en faveur des sœurs d'Albi. C'est impossible, s'écria M. de Mussidan bouleversé. Ce M. Mirandol dit tenir la chose d'un des témoins de ce testament et il ajoute qu'il ne faut pas trop se désoler de ce caprice de Mademoiselle de Puylaurens qui est en ce moment dans un tel état de santé qu'on peut bien lui donner encore une douzaine d'années au moins à vivre. Vous avez lu cette lettre ? Frédéric me l'a lue. Comment ne m'en a-t-il pas parlé ? Pour ne pas vous peiner. C'est absurde. C'est justement ce que je lui ai dit et c'est pourquoi j'ai cru devoir vous avertir. Il semble qu'un homme comme vous peut parer le coup. « Soyez tranquille, je vais écrire à mon agent de corde. Nous saurons à quoi nous en tenir. » Ce que l'agent de corde répondit, ce fut qu'il ne connaissait pas ce testament et que toutes les personnes qu'il avait interrogées ne le connaissaient pas plus que lui. Cependant, il devait ajouter, pour ne rien omettre, qu'en dernier temps, M. Astruc, le notaire de Gaillac, était venu plusieurs fois chez Mademoiselle de Puylaurens. Pourquoi ? On n'en savait rien. Quant à la santé de Mademoiselle de Puylaurens, elle était toujours à peu près dans le même état. Et le mieux dont on parlait se réduisait à ceci, que depuis quelques mois, elle n'avait pas été enrhumée. Cette lettre était en somme assez rassurante, car si Mademoiselle de Puylaurens, personne intelligente et instruite, avait eu la singulière fantaisie de faire son testament par-devant notaire avec le cérémonial prescrit par la loi, cela aurait été connu dans une petite ville comme Corde, où chacun bavardait sur la question de savoir qui hériterait de la fortune et des biens de la châtelaine du pays. Mais rien ne rassure un héritier qui vit continuellement dans la crainte des testaments, qui en rêve, qui en voit partout. Elle avait pu se cacher, mademoiselle de Puylaurens, et si bien que presque personne n'eût connu son testament. Et, d'autre part, elle avait pu aussi recourir à cette forme de testament public, fait par un notaire en présence de 4 témoins, pour qu'il fût plus solide et pût triompher des procès que ses héritiers naturels voudraient sans doute lui opposer devant les tribunaux. Ces considérations avaient jeté M. de Mussidan dans une cruelle perplexité, et il avait voulu voir la lettre de Mirandol à Frédéric. Mais elle ne lui avait rien appris de plus que ce que Clara lui avait dit. Alors il écrivit de nouveau de faire une enquête, d'interroger Mirandol, de tâcher de trouver un des témoins du testament, tandis que, de son côté, Frédéric écrivait à son ancien camarade de ne pas répondre aux questions de Cédoux. « Vous comprenez, cher ami, que j'ai des raisons pour vouloir donner des inquiétudes à mon père. Mais cependant, je ne veux pas lui ôter tout espoir. Il a vécu trop longtemps avec cette idée d'héritage. Il suffit à notre plan qu'il ait des doutes qui, je pense, le décideront à accepter l'occasion dont je vous ai parlé. » Ce fut dans ces conditions, et pendant que Cédoux faisait son enquête, que Frédéric se décida à entretenir son père des projets de mariage du marquis. Un matin, il arriva tout superbe, avec un air triomphant. « J'ai une grande consolation à vous apporter, » dit-il. « Mirandol s'était trompé, » s'écria M. de Mussidan, qui ne pensait qu'à son testament. « Ce n'est pas de Mirandol que j'ai à vous parler, c'est du marquis d'Arlanzon que j'ai vu hier et qui peut, si vous le voulez, nous faire prendre gaiement le testament de mademoiselle de Puylaurens. » « Quel rapport peut-il exister entre le marquis et cette coquine ?»« Aucun, seulement le marquis peut prendre la place de ma tante, au moins pour vous. » « Que me racontes-tu là ?»« En deux mots, voici ce dont il s'agit. Le marquis est fou de Geneviève et il veut l'épouser. » « Le fou, c'est toi. Rien n'est plus sérieux, je vous en donne ma parole. » « Comment, le marquis? Il sait ce que nous sommes, cependant. » « Oui, mais il oublie ce qu'il est, lui, ou au moins, il ne pense qu'à sa fortune et à la nôtre. » « Me croit-il homme à vendre mon enfant ?»« Assurément non. Seulement, il s'imagine qu'un homme dans sa position, qui veut épouser une jeune fille aussi pauvre que Geneviève, n'a pas à craindre un refus, et il me semble qu'il n'a pas tout à fait tort. Si vous pouviez espérer que Geneviève aura un jour sa part dans l'héritage de mademoiselle de Puylaurens, vous pourriez ne pas accepter ce mariage, si beau pour elle cependant, au moins sous le rapport de la fortune et de la position. Mais cette espérance, vous ne pouvez guère la conserver, et alors ce mariage devient, pour ainsi dire, une occasion providentielle. » Sans répondre directement, M. de Mussidan voulut que son fils lui racontât comment le marquis l'avait entretenu de son projet de mariage, et Frédéric lui arrangea un récit qui rendait cette ouverture toute naturelle. « Et le marquis s'est imaginé que j'allais accueillir sa demande ?»« Dame !»« Il s'est imaginé que moi, comte de Mussidan, j'allais l'accepter, lui, un homme de rien ?»« Il est marquis d'Arlanzon. » « Depuis quand ?»« Soyez sûr qu'il croit l'avoir toujours été, mais s'il n'a pas de naissance, au moins a-t-il de la fortune. » « Et que m'importe cette fortune ?»« Cependant, dans votre position, dépouillé de l'héritage de notre tante, c'est quelque chose que d'être le beau-père d'un homme riche comme le marquis. » « Cela suffit-il pour que je lui donne une enfant en faveur de qui j'ai fait tant de sacrifices ?» Est-ce lui qui doit profiter de ses sacrifices? C'est une fortune que cet enfant. Improductive. Qui produira, qui va produire. Et c'est juste au moment de sa mise en valeur qu'on demande que je la donne. Ce ne serait pas sans compensation. Quelle compensation? Cela, je n'en sais rien. Ce serait à discuter avec le marquis. À discuter, je ne discute pas ces choses-là, moi. Cependant, il faudrait avant tout que le marquis comprît bien la situation qui est simple. J'ai une fille à qui j'ai donné 15 ans de ma vie, de soins, de sollicitude, de dévouement. Aujourd'hui, elle arrive à l'âge où je vais récolter ce que j'ai semé et rentrer dans mes avances. Et justement, on veut que je la donne. Est-ce juste? Certainement, le marquis comprendra cela.
Il comprendra. Cela serait à voir. En tout cas, je ne veux pas examiner ce projet avant que cela soit vu. C'est la première question à examiner, et puisque tu t'es fait l'ambassadeur du marquis, tâte-le à ce sujet, mais discrètement. Surtout, ne laisse pas croire que je suis disposé à admettre ce mariage. C'est le contraire qui est vrai. Pour que je cède, il faudrait qu'il présentât des avantages tels qu'un refus de ma part fût un acte de folie.